Bénir vous permet de rentrer dans la bénédiction que Dieu a prévue. On est d'accord? Je vous bénis. Mon désir est de rentrer dans ce que Dieu a prévu ce matin, dans le partage. Et je suis bien embêté tant je me suis accordé de liberté et de raccourci dans le premier message. Je vous encouragerai à aller l'écouter sur Internet, car je ne serai pas fidèle à tout ce que j'ai pu dire dans la première partie. Mais je resterai sur la même thématique ce matin. Je suis heureux d'être avec vous, de partager ces moments avec Cindy, ma compagne, et mes deux enfants. C'est une joie de vous revoir après un an d'attente pour lequel nous ne sommes pas perdus, oubliés, partis. Nous sommes toujours en train de travailler à Châteaubriant, et c'est en France. Non, vous ne voulez pas, c'est vrai. C'est vraiment en France. C'est même dans la région, je crois. C'est vrai. Et on en repart vivant quand on y vient. Est-ce qu'on en repart béni? Ah bah, vous direz amen quand vous serez venu. Bah écoutez, ça c'est le langage de la foi.
C'est logique.
C'est le langage de la foi. Mais il y en a un que je vois là. Bon, Jacques, Olivier et Gérard, vous êtes exemptés de... Vous, c'est la vocation et la tâche professionnelle qui fait que... la charge du ministère, mais... Voilà, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est plaisir, c'est vrai. Ah, gloire à Dieu. On est d'accord. L'Église est face à un grand défi. Un grand défi, et Dieu a mis sur mon cœur une vision de l'Église qui est complètement à contre-courant de ce que nous mesurons et voyons, ressentons dans ce monde. Je ne sais pas quelle vision vous avez, tu as, nous avons de l'Église. Comment cette vision, elle se forge dans votre esprit? L'Église est bien plus qu'un rendez-vous qui nous permet de nous réunir le matin, le dimanche matin, pour offrir un culte d'adoration et de vivre un temps de communion. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus précieux que cela. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle dans l'un des pays étrangers, qui n'est pas Châteaubriant, où il y a eu une pénurie de papier toilette? Une pénurie de papier toilette, tout simplement, puisqu'en fait, une rumeur a été lancée que suite, je crois, au coronavirus, il y a alors un problème d'approvisionnement dans un pays suite aux expéditions de produits intérieurs, que les gens se sont rués dans les centres commerciaux pour acheter tout le papier toilette qu'ils pouvaient avoir. Ils ne l'ont pas acheté pour l'offrir aux voisins, ils ne l'ont pas acheté pour l'offrir, ils l'ont acheté pour faire des réserves personnelles. Et on voyait les gens à la télévision, c'est un pays oriental, je crois que c'est le Japon ou la Chine, qui se battaient pour acheter du papier toilette. Juste pour survenir à leurs propres besoins, à leurs nécessités du quotidien. Et je suis à la fois admiratif et surpris de la manière dont l'homme réagit. J'ai grandi en tant qu'homme, comme vous, dans une culture où on m'a appris à me défendre, à avoir mon propre besoin, à exprimer mon avis, mon besoin, ma nécessité. Et Gérard, vous partagez le fait de bénir. On m'a appris à me protéger. Dès plus jeune, à la cour de récréation, j'ai compris que si je ne prenais pas soin de moi, ce n'était pas forcément tous mes amis. J'ai appris à me méfier de l'autre. Les déceptions des hommes m'ont appris à me méfier de l'autre. Mais un jour, j'ai rencontré un homme, Dieu, qui s'était fait homme, et qui m'a montré que je pouvais compter sur lui, que lui me ne décevrait jamais. Et cet homme a dit: Cédric, j'ai un projet. Je vais faire quelque chose que tu ne comprends pas, pour lequel tu n'es pas programmé. Je vais bâtir l'Église. Et cette Église, elle est faite sur un modèle qui n'est pas celui dans lequel tu as évolué. Il est sur mon modèle. Un modèle sur lequel il faut que tu donnes. Que tu donnes ce que je vais te donner. Tu n'es pas invité à venir à l'Église comme au supermarché pour prendre ta consommation. Tu es invité à l'Église. Là, je parle à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Parce que tu as reçu quelque chose. Ne me regardez pas comme ça, vous faites peur. Vous avez tous reçu quelque chose. Toi-même qui ne connais pas le Seigneur, tu as quelque chose de précis. tu as quelque chose de précieux. La Scripture nous dit qu'avant même la fondation du monde, Dieu te connaissait. Nous avons tous des cheminements difficiles, pour certains, des familles très difficiles. Avant même l'abandon, Dieu savait par où nous passerions. Il nous aimait avant la fondation du monde. C'est son amour. Nous sommes le fruit de son amour. Nous, les hommes, nous faisons du mal. Nous avons été programmés pour vivre égoïstement. Moi, je, moi, je. Mais Dieu, qui est riche en bonté, a répondu sur son délice, c'est bon. C'est bon. Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons, à l'amour et aux dons. À quoi un don servirait-il si ce n'est pas pour être donné? Alors je poserai la question que j'ai posée ce matin pour rester fidèle à la ligne. Qu'est-ce que ce matin tu as donné? Et de quelle manière tu l'as fait? Es-tu venu ce matin dans ce lieu en te disant je vais donner quelque chose? Et là je ne parle pas de Dieu. Je parle de celui qui est assis à côté de toi, que tu ne connais peut-être pas encore. Je me rappelle, on était à Bordeaux à cette époque avec ma femme, et j'étais dans l'église et j'étais vide. J'étais en discussion avec Dieu et dans le schéma de pensée qu'on m'avait enseigné, de prier le dimanche matin, de prendre sa place, Dieu le mérite, etc. J'étais en lutte avec moi-même pour essayer d'offrir une adoration, d'élever ma voix, de forcer mon cœur à « Réveille-toi mon âme, loue ton Dieu ». C'était vrai, mais mon cœur n'y était pas et j'étais en lutte avec moi-même. Et c'est une prière, tout simple, s'élever. Et pas une prière. Une prière religieuse, c'est la prière d'un cœur qui s'élevait, qui criait, et qui se répandait, qui correspondait mot pour mot à ce que je ressentais. Et à ce moment-là, c'est cette sœur qui ne le sait pas, qui ne le savait pas, qui ne le sait toujours pas d'ailleurs, qui a fait que j'ai pris une victoire à cet instant dans la prière, sur ma peur. Je ne suis plus esclave de la peur. J'ai envie de dire, je ne suis plus esclave de la peur parce que vous êtes là et parce que je suis parti de l'église et que je ne suis pas seul et que Dieu y est. Je remercie le Seigneur pour l'église, pour ce projet qu'il a mis sur nos cœurs. Et ce projet n'est pas que celui des ministères, c'est le projet de tous. Nous sommes appelés à donner car il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous venons. Et je m'inclus dedans pour recevoir ça. Je veux recevoir, je veux une parole, je veux une direction, je veux, je veux, je veux. Et pourtant, nous avons tellement reçu que nous pourrions tellement donner. Tellement donner. L'Écriture nous encourage à donner. J'aimerais poursuivre sur cette idée de donner quelque chose à notre société, à notre culture qu'elle a perdu. L'amour. L'Écriture dit qu'à la fin des temps, alors nous sommes rentrés dans la fin des temps depuis l'œuvre de la croix. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus. L'Écriture nous dit que plus nous allons avancer dans les jours, plus ça va devenir compliqué. Je ne connais pas le jour, je ne sais pas jusqu'à quelle limite on ira. Mais ça devient de plus en plus compliqué. À une génération près, la société évolue, change. Les gens deviennent de plus en plus égoïstes, irreligieux, fanfarons. Fermés les uns sur les autres, sur des systèmes économiques que nous défendons, de moins en moins ouverts à la souffrance d'autrui. Pourtant, l'Église est là pour donner. Donner ce qu'elle a reçu de plus précieux, ses talents. La compassion. La compassion. L'année dernière, j'étais venu vous voir sur cette base en vous disant que nous étions alertés par l'Écriture que l'iniquité s'agrandira et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Suis-je face au plus grand nombre pour lequel l'amour s'est refroidi? Où l'amour n'est qu'un principe utopiste, vivez-vous l'amour? Ah, c'est du concret, là. Vivons-nous l'amour? Ou est-ce que nous croyons qu'un jour nous le vivrons? Décidons-nous de le vivre aujourd'hui. Vivre l'amour de manière collégiale dans un groupe aussi hétéroclite que le vôtre nécessite de se connaître les uns les autres. Comment voudriez-vous accueillir une âme nouvelle si vous ne vous connaissez pas les uns les autres? J'ai été dans une grande église de France durant 2 ans. Pendant 1 an, c'est pas bien, ça m'a heurté. C'est un des défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis passé invisible durant 1 année. Dieu était là. Je voyais des hommes et des femmes aimer le Seigneur, et je ne remets pas en compte leur sincérité, mais de ce que nous faisons aujourd'hui de l'église. C'était une année de mes études où j'étais le plus bas, au plus bas émotionnellement. C'était très difficile, on avait des difficultés familiales. Je suis resté un an, jusqu'au jour où une petite mamie m'a dit, ça fait des années que je te vois. Et le Seigneur m'a dit de venir te voir et elle m'a donné une parole à la sortie de l'église qui correspondait au jour J, une mauvaise nouvelle qu'on avait reçue dans la famille. Combien Dieu est grand. Je remercie le Seigneur pour cette petite grand-mère. Et je crois qu'on pourrait donner plus. Alors lorsque l'Église se réunit, ce ne sont pas que des hommes et des femmes qui veulent recevoir, mais des hommes et des femmes qui veulent donner. Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, quelques-uns ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen.
Amen.
Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Alléluia. Vous pouvez tous prophétiser. I have a dream. On cesse ce dimanche pour y réfléchir. Dimanche prochain, c'est dans l'objectif de venir dans la maison de Dieu avec votre mentalité. Seigneur, je veux donner quelque chose à cette église, plus que recevoir. Nous sommes appelés à donner et à ne point retenir ce que Dieu nous a donné. Dans ce monde en souffrance, éloigné de la vie de Dieu, c'est normal. Nous n'annonçons pas une éthique chrétienne. J'ai pas envie que le monde change, c'est le monde. Donc le monde rencontre Dieu. Nous n'annonçons pas une morale ou une loi spirituelle, nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés. J'annonce ce matin les vertus de Dieu. Un Dieu juste, un Dieu vrai. Le souci avec le mot Dieu, c'est qu'on y met tout ce qu'on veut. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui vient peut-être pour la première fois. Si je te pose la question, crois-tu en Dieu ? Tu vas me dire non. Il est possible que le Dieu dans lequel tu ne crois pas soit le même dans lequel je ne crois pas non plus. On met ce qu'on veut derrière le mot Dieu. La première question que vous posez à un homme, crois-tu en Dieu ? Il va dire, ben non. Ben moi, je vais dire, ben moi non plus, j'y crois pas. Ah bon ? Pourquoi tu me poses la question ? Parce que moi, je crois pas dans le même Dieu que toi. Ils sont appelés à connaître Dieu d'après la parole. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés. Paul, se présentant à Athènes, dira, le Dieu que vous cherchez à adorer, c'est le mien. Ça nous touche de voir, oui, il cherche Dieu, mais ce Dieu que vous cherchez, c'est le mien. Et la même approche, nous devons l'avoir avec ce monde. Un athée, c'est un Dieu c'est un homme qui s'est forgé une vision de Dieu qui correspond à ses déceptions. Il ne peut pas croire en ce Dieu, mais c'est vrai, ce Dieu n'existe pas. Laisse-moi te parler de Dieu tel qu'il est annoncé dans l'Écriture. Et combien d'hommes et de femmes ne croient pas en Dieu mais n'ont jamais été lire la Bible pour rencontrer Dieu tel qu'il est vraiment. Nous ne sommes pas appelés à apporter une morale, mais à parler de Dieu. La morale chrétienne vient après avoir rencontré Dieu. Et l'Église présente Dieu. Un Dieu qui est généreux, un Dieu qui donne. Et vous avez tous reçu quelque chose ce matin. Et ça m'a appelé à le donner, à le partager et à vivre ces instants de communion merveilleux. C'est par amour que Dieu nous a créés. Nous étions perdus dans nos péchés. Et c'est par sa compassion, sa miséricorde qui nous a sauvés. Le psaume 103 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça, c'est ce que nous dit l'Écriture. Les hommes ont soif de justice. Mon Dieu est un Dieu de justice. L'année dernière, j'étais venu et nous avions défini ce qu'était la compassion, ensemble. Une vertu, une émotion, pas un sentiment, en lien avec l'amour, par laquelle un individu est porté à percevoir, à ressentir la souffrance d'autrui et pousser à y remédier. Compassion, c'est ressentir au plus profond de moi-même la souffrance de l'autre. Là, je ne parle pas de projection de nos propres souffrances. On est des fois doués pour cela, où on est sensible sur certains sujets et on est encore en souffrance nous-mêmes. Lorsque quelqu'un souffre comme nous, ben on projette notre souffrance sur lui et on se sent beaucoup plus proche. Alors, c'est pas ça, c'est pas la compassion, ça c'est la projection de ta souffrance à laquelle tu es amené à guérir. Moi, je vous parle de quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, et qui va te parler de sa souffrance, et tu vas être ému de compassion à son égard, tu vas ressentir sa misère et sa souffrance. Non pas parce que toi aussi tu souffres comme lui, mais parce qu'au-dedans de toi, il y a de l'amour de Dieu. Et l'Église est cet endroit où la compassion et l'amour doivent y être et demeurer. Pourquoi ? Parce que si nous disons que Dieu est au milieu de nous, comment pourrions-nous justifier, expliquer notre froideur, notre indifférence, nos barrières, ce qui nous sécurise ? Si Dieu est pour nous au milieu de nous, qui sera contre nous ? Comment pourrions-nous justifier nos attitudes ? À qui il est doux pour des frères de demeurer séparés par une chaise, individuellement, un petit morceau de pain, petite coupelle individuelle, là, la bénédiction est là. Loin de mon frère, ou plutôt de celui que je ne connais pas encore. Et puis je ressors, je suis tranquille, je repars dans ma semaine, un beau message, mais il y a une bénédiction particulière que nous ne devons pas perdre de demeurer ensemble. Demeurer, demeurer, demeurer. Rien que ce mot, il est merveilleux. Demeurer ensemble, qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. La vie. Ressentir la souffrance d'autrui et pousser à y remédier au travers de la compassion. Pousser à y remédier. Compatir, c'est éprouver de la compassion. Signifie partager la souffrance des autres, ressentir leur douleur au fond de soi. C'est un sentiment qui atteint notre être émotionnel et affectif et qui nous pousse à agir. Le sens du mot littéralement « sympathéos » en grec, mais qui trouve également son origine en hébreu, prend racine dans les douleurs de l'enfantement d'une femme qui ressent un enfant dans son ventre qui peut des fois lui faire du mal. Est-ce que c'est parce que l'enfant qui bouge lui fait du mal que d'un seul coup elle va vouloir le rejeter ? Non ! Elle a de l'amour pour lui. Nous ressentons au-dedans de nous les douleurs de l'enfantement. Paul reprendra cette image. Souffrir avec. Ne pas être compris, mais souffrir avec. La compassion a un impact dans nos vies spirituelles, ça nous l'avions vu. Elle change notre regard sur ce monde, notre écoute du prochain. Lorsque cet homme viendra parler à Jésus, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, voulant se justifier, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Voulant le rabaisser, non. Jésus, il nous a dit de Jésus, Jésus l'aima. Cédric ouvrit sa Bible, chercha un verset pour lui répondre « Et Jésus est là. » Elle change notre regard, notre écoute. Elle transforme également notre vie de prière. Et je vous ai pris l'exemple de l'Église qui intercédait de manière instante pour Pierre en prison. Et le mot qui est employé dans ce passage est le même mot qui est utilisé lorsque Jésus combattait à Gethsémané. Une Église en prière qui combattait comme Jésus combattait à Gethsémané pour le salut de nos vies. Wow. Une Église qui devait très certainement avoir réalisé l'enjeu de sa place dans la prière, qui avait entendu le meurtre de Jacques, ne voulait certainement pas que cela se produise pour Pierre et qu'on s'en remette à Dieu pour son salut. Certes, Pierre avait reçu déjà des promesses, il savait, je pense lui-même, que sa fin n'était pas là puisqu'il avait reçu une parole de Dieu. Mais l'Église va monter avec émotion et sentiment pour combattre dans les cieux célestes. La prière. Nous prions non pas parce qu'on doit prier. Nous rassemblons en réunion de prière non pas parce qu'on doit se rassembler au moment de prière. Non mais c'est vrai. Pourquoi on vient à la réunion de prière ? Ah, il y a un piège. J'ai envie de dire à mon cœur, Cédric, va à la réunion de prière parce que tu mesures la souffrance de certains, la souffrance de ce monde et tu veux que ça change. Donc tu vas y aller. Tu ne vas même pas y aller pour prier. Tu vas y aller pour prier avec les autres. Tu vas y aller pour soutenir les autres. Tu vas y aller parce que tu veux que ça change dans ta vie. Tu veux que ça change dans cette vie. Tu veux que ça change dans l'Église. Parce que sinon, si on ne vient pas pour ça, il faut mieux rester chez soi. On vient consommer. La compassion. Lorsqu'une Église a compassion de la souffrance et vient se réunir pour prier les cas qui leur sont difficiles, pesants, je crois que Jésus est sensible à cela de son ciel de gloire, parce que c'est ce qu'il a voulu faire tout le temps avec ses disciples. Lorsque ses disciples se divisaient, il n'avait que cesse de les réunir. Et lorsqu'il voit des gens et des femmes mettre de côté leurs différends pour se réunir pour un but suprême qui est la gloire, mais également la bénédiction de nos frères et de nos sœurs, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de notre Père. Parce que mon Dieu est un Dieu sentimental. Il a des sentiments dans son cœur. Et quand il voit des hommes et des femmes qui s'unissent par amour les uns pour les autres, il ne peut que étendre sa main. J'aimerais voir avec vous ce matin que la compassion, elle est indispensable à notre service. J'ai cru souvent que je pouvais accomplir des choses par appel. Alors dans le mouvement de Pentecôte, on est très après appel. Il faut l'appel, il faut la direction, il faut le feu vert, il faut la pioche, le marteau-piqueur. Lorsque nous sommes allés à l'école biblique avec ma compagne, on avait quitté notre travail, on avait rendu notre appartement, on avait vraiment reçu une direction de Dieu précise, particulière. C'était le temps de Dieu pour nous. En tout cas, c'était ce temps de consécration et d'approfondissement de la parole. Et je le faisais pour moi, parce que je voulais apprendre la parole. Genre, j'ai toujours aimé la parole. Et je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir passer autant d'années à étudier la parole avec plein de pasteurs, c'est cool. J'étais fier, honoré. Pas une fierté déplacée, mais j'étais honoré de pouvoir passer ce temps où j'allais remplir mon cœur, me gaver de temps avec Dieu. Ah, j'étais un peu dans la consommation. J'étais. La première semaine, j'ai été touché par une pensée qui avait été donnée dans un message. Et Dieu m'a dit, ce que tu fais, c'est vain. Si tu ne réalises pas que tu quittes ton travail, que tu te consacres pour les autres. Et ça m'a mis à jour. Parce que j'ai réalisé que je le faisais pour Dieu. Et j'étais tellement centré pour vouloir le faire pour Dieu, que je n'avais pas réalisé que je me consacrais pour l'Église. Pour son projet à lui. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'avant même d'annoncer sa mort sur la croix, pour moi, Jésus avait annoncé à Pierre qu'il allait bâtir l'Église. Avant même de dire qu'il allait souffrir et mourir, il a dit à Pierre qu'il bâtirait l'Église et qu'il se servirait de cette révélation de Jésus-Christ. Il a tout donné. Jésus ne s'est pas sacrifié. C'est provocateur de dire cela. Mais dans son état d'esprit, Jésus ne s'est pas sacrifié. Il s'est donné. Les hommes l'ont sacrifié. Il a été sacrifice, victime expiatoire pour nos péchés, mais lui, dans son esprit, s'est donné. Il n'a pas vécu ce don comme un sacrifice. Et nous, nous voyons nos engagements comme des sacrifices. Parce que notre cœur n'a pas été changé pour que nous puissions donner. Le don se fait avec joie. Le don se fait avec joie. Que celui qui donne le fasse avec joie, sans contrainte. Jésus, est-ce que vous accepteriez que Jésus se soit donné pour vous en disant « Waouh, je n'ai pas le choix ». Jésus n'est pas venu parce qu'il n'avait pas le choix. Il l'a fait parce qu'il nous aimait. Et c'est son amour qui m'a changé. C'est son amour qui fait que je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et comment pourrais-je donner un amour au rabais par rapport à l'amour qu'il m'a démontré? Comment pourrais-je me consacrer sur la louange si je le fais pour moi, si je le fais pour Dieu et que j'oublie de le faire pour mes frères et sœurs? Comment pourrais-je élever ma voix dans l'église en ne prenant pas conscience que je suis entendu et que ma prière va peut-être encourager quelqu'un? Comment pourrais-je pas prendre conscience qu'en rentrant dans un service, quel que soit de l'Église, non seulement je sers Dieu, mais je sers mon frère et ma sœur. Nous aimons être servis. Or Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et qu'il a mis un comble à son amour, à quel instant? Lorsqu'il s'est mis aux pieds des disciples. Non sur la croix. L'Écriture ne nous dit pas que le comble de l'amour de Jésus est sur la croix. L'Écriture nous dit que le comble de l'amour est lorsque Jésus s'est mis à genoux aux pieds de ses propres disciples et qu'il leur a lavé les pieds. Alors nous, ça ne nous parle pas. Mais Jésus a servi parce que celui qui lavait les pieds à cette époque, c'était un esclave. C'était un intendant. C'était sa tâche et il devait le faire. Il devait venir et il est venu, mais il a vu Jésus le faire. Mais c'est un scandale. C'est pas à toi, Jésus, de faire cela, c'est à moi. Je suis qu'un esclave, mais non, Jésus a été jusqu'au bout et il a mis le comble de cet amour où Jésus ne l'a pas fait pour donner un exemple, pour montrer à quel point il était humble. Non, il l'a fait parce qu'il aimait, parce que c'est Dieu, parce que c'est sa dimension. Il ne l'a pas fait pour montrer, il l'a fait parce qu'il était amour. Ah, il ne l'a pas vécu comme une humiliation, il l'a vécu parce qu'il a voulu montrer l'exemple, parce que l'exemple, c'est la vérité. Il veut changer nos cœurs, non pas pour que nous soyons des hommes et des femmes religieux, mais que nous soyons à l'image de son cœur, à donner naturellement. Pour nous, ce n'est pas un sacrifice, c'est un don. L'œuvre de Jésus que nous témoignons, c'est un don. C'est les vertus de notre Dieu qui nous a appelés. Lorsque je me lève et que je sers dans l'église, je ne le fais pas parce que je dois le faire, je le fais parce que Jésus m'a aimé. Et je donne, Seigneur, j'ai envie que tu changes mon cœur. Rien qu'à ça, ça suffit que je tombe de mes genoux et que je dis, Seigneur, change mon cœur. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je suis dans la dynamique de vouloir bien faire, de vouloir t'honorer. Et donne-moi cette dimension de mon frère et de ma sœur qui souffre. Donne-moi cette vision de le servir et de ne pas me servir moi-même. Vous savez, on ne rentre pas dans le ministère pour nous servir nous-mêmes. Ça, on devrait l'entendre dès le début. On nous le dit, hein. On ne rentre pas dans le service du ministère pour se servir soi-même. On ne chante pas pour se servir. On ne prie pas pour se servir. On ne garde pas les enfants pour se servir. On le fait simplement parce qu'on a conscience que ce simple service dans l'Église, il contribue à l'œuvre, à la gloire de Dieu. Est-ce que tu as envie? Vous avez dit Amen. Vous avez dit Amen. Est-ce que vous voulez contribuer à la gloire de Dieu? Donnez. Donnez de votre temps. Donnez ce que Dieu vous a donné. Si vous avez perdu ce que Dieu vous a donné, vous l'avez peut-être enterré sans vous en rendre compte. Allez le redéterrer. Et dimanche prochain, le culte sera différent. Vous ne reviendrez plus en attendant que quelque chose se passe ici. Quelque chose se passera là. Je sais que tous ceux qui sont sur l'estrade attendent que ce jour, on parle du réveil. Le réveil, il vient de nos cœurs. Le réveil, il vient qu'on revient à Jésus. On revient à Jésus. Parce que lui s'est donné. Il s'est donné. Alléluia. Donné. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Gloire à Jésus. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Si je vous posais la question, où est dans l'Écriture cet appel, cette vocation missionnaire de l'Église, de l'enfant de Dieu? Je pense, après avoir lu ce passage, peut-être avant d'avoir lu ce passage, que vous m'auriez tous cité ce passage de la fin des évangiles. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez, allez-y, foncez. Présenté souvent comme un impératif, et on se rend compte en étudiant les textes que ce n'est pas un impératif. C'est déjà une œuvre qui a été faite dans nos cœurs. Pourtant, ce passage cité bien souvent « Allez par tout le monde » n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de la mission, de la vocation. C'est ici. C'est ici que Jésus a été confronté à une foule languissante où Jésus a dit « Il va falloir qu'on prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson ». Déjà, ça m'interroge. Par contre, là, on a un impératif, hein, prier. Sur la manière dont nous voyons ce monde, le moyen et la nécessité d'y aller. Et Jésus va être touché, non pas par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, mais il va être touché parce qu'il va voir cette foule sans berger, les brebis égarées. Et il va être au-dedans de lui ému de compassion. Jésus qui a quitté la ciel de gloire, qui vient dans notre misère terrestre, ne va pas être touché de la quantité de travail à accomplir. Il va être touché de notre misère. Il va être ému de compassion. Ce n'est pas l'ampleur de la tâche qui fait qu'il va demander beaucoup d'ouvriers. C'est parce que les hommes sont tellement éloignés de Dieu, il va être touché au plus profond de son cœur des sentiments qui sont dans son Père. Et qui va dire, voilà, on va prier pour que Dieu envoie des hommes et des femmes, pour que ces hommes et ces femmes se retrouvent Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le nom d'ouvrier, mais la puissance de l'amour qui anime ces ouvriers. C'est parce que Jésus a été ému de compassion qu'il a fait cette prière. Jésus n'était pas en train de sortir une stratégie d'action, un plan en quatre points, comment évangéliser, C'est l'amour. C'est l'amour qui l'a fait quitter son ciel de gloire, c'est l'amour qui a fait qu'il a voulu te créer, pour t'avoir, pour te connaître, pour vivre avec toi. C'est l'amour qui fait qu'il a quitté ce ciel de gloire pour donner sa vie. C'est l'amour qui fait qu'il demande à son Église d'intercéder. Et c'est la raison pour laquelle l'Église devrait être présente, non par rapport à l'enjeu, mais par rapport au feu qui a été allumé dans nos cœurs, ce feu de l'amour, que nous ne devons pas perdre. La vision des âmes. Le regard souvent s'attarde sur la charge de travail, nous n'en demeurons pas moins émus. La charge de travail, et nous sommes plus émus par rapport à la souffrance d'autrui, mais par le comment nous allons faire. Le comment nous allons faire, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous remplit de ses dons. Et nous soyons remplis d'amour. Remplis d'amour. Priez le maître de la moisson, envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ensuite, si vous continuez dans les évangiles, vous allez réaliser que Jésus va envoyer ses disciples, qui, je pense, ont dû peut-être prier dans leur cœur, en disant, c'est vrai qu'on a besoin de prier, Seigneur, envoie des ouvriers. Ben, Dieu va répondre à leur prière, il va les envoyer. Il va les envoyer, chasser des démons, annoncer l'évangile. C'est à ce moment-là qu'il va les envoyer. Ils vont partir et ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont dire à Jésus, mais tu n'étais pas avec nous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les démons nous sont soumis, on a guéri, on a annoncé ton évangile, c'est merveilleux, même les démons, ils nous sont soumis. Et Jésus va leur dire, mais je sais, j'ai vu Satan tomber tel un éclair. Et réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ses disciples avaient la vision du combat, ils combattaient, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Lui, Jésus va voir au-delà, ce qui me fait dire d'ailleurs que dans nos propres combats spirituels, nous n'avons pas besoin de voir la dimension spirituelle. Si Dieu ne nous donne pas d'éclairage dessus, il nous demande tout simplement de lui faire confiance, d'être à notre place et d'accomplir ce que Dieu veut. Il se passe des choses dans les cieux célestes que je ne mesure pas et je suis toujours des fois ébahi de gens et de femmes qui ont une révélation tellement plus grande que la parole, qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas décrites. Moi, je veux m'attacher à ce que l'Écriture dit. Sois fidèle, combat, attache-toi à l'amour et agis. Et lui, Jésus verra Satan tomber. Et Satan est détrôné lorsque des hommes et des femmes se lèvent et accomplissent la parole de Dieu et obéissent. Et Jésus va les écouter. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et là, il s'est produit quelque chose. C'est qu'au moment où Jésus est en train de leur parler, la foule va revenir. Au moment où les disciples veulent un instant de communion avec les disciples, la foule va les represser. L'évangile de Marc, chapitre 6, verset 30, nous dit quelque chose. Marc 6, 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. C'était bien, ils revenaient de longues missions. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allèrent et reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus? Ouais, je peux le dire plus fort. Jésus est retourné dans le piège. Jésus envoie les disciples travailler, ils reviennent fatigués, ils n'ont même pas le temps de manger. Jésus leur dit, on va prendre un petit peu de temps ensemble, on va s'écarter, les élèves, vous allez pouvoir exprimer, on va pouvoir se fortifier. Et là, il y a une grande foule qui suit Jésus, ils se mettent à l'écart, et dans le lieu où ils se mettent à l'écart, la foule revient. Là où les disciples, à mon avis, espéraient pouvoir se reposer, partager Jésus et pouvoir manger, ils renvoient le maître, ils attendent d'être écoutés, et ils renvoient encore leur maître, et une de compassion. Et c'est reparti. Et c'est tellement reparti loin, c'est que l'heure elle devient avancée. Il commençait à être tard. Et là, on est complètement dans l'improvisation. Parce que ce n'était pas prévu. On avait prévu bien autre chose, hein, te parler, de vivre un temps avec toi. On n'était pas prévu de nourrir autant de monde. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, les disciples sont très pragmatiques. Ils ont trouvé la solution. Ben, renvoyer. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoyer afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages et les environs pour s'acheter à quoi manger. Vous avez la réaction de Jésus. La réaction des disciples. Et ce qui là, je suis touché, c'est que je vois les disciples revenir et viennent de chasser des démons. Maintenant, ce n'est plus les démons qui veulent chasser, c'est ceux qui leur prennent un peu de temps. Et Jésus est là, au milieu de compassion, et L'évangile de Jean nous dit que Jésus va les éprouver, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Et c'est ma lecture. Parce que là, on est vraiment resserré dans ce qui s'est passé. Hein. Jésus a prié pour envoyer les ouvriers dans la moisson, il les envoie, et après il les met à l'épreuve avec la multiplication des pains, en disant « Je suis ému de compassion, maintenant on va leur donner à manger, il est trop tard pour le roi, on fait quoi ?» Et eux qui devaient être émus de compassion sont plus remplis de puissance, de pragmatisme. Je suis né dans le mouvement de Pentecôte, et j'ai toujours été émerveillé par les dons et la puissance. Les miracles et les prodiges qui se produisent et qui sont toujours d'actualité dans la puissance de mon Dieu. Mais ce n'est que maintenant que je réalise, non pas que je comprends, que le plus grand des dons, c'est l'amour. C'est l'amour dont j'ai besoin. Mon cœur a toujours été assoiffé que Dieu se serve de nous ce mois pour accomplir des miracles et des prodiges. Et devant la compassion de mon Seigneur Jésus, du don qu'il a fait par amour, je suis humilié. Je suis empreint d'humilité. Je veux réclamer à mon Dieu, donne-moi cet amour que toi tu as eu. Cet amour qui te pousse à voir des choses, à t'écarter de la sagesse humaine. Car c'est pas sage, Seigneur, d'avoir autant de monde autour de toi, d'attendre la dernière heure pour se demander ce qu'on va faire. Tout ça parce que tu étais tellement empreint d'amour et que tu donnais aux gens ce dont ils ont besoin, que tu t'as mis une situation qui manquait de sagesse. Moi, j'aurais fait un truc avec les hôtels, j'aurais fait une agape géante, j'aurais préparé, j'aurais anticipé ces choses. Et toi, tu as été pris. La compassion nous pousse à faire des choses qui dépassent notre entendement. Je crois que des fois, nous mettons les choses inverses. À trop structurer, on en perd et on en a une foi aseptisée. Une foi tellement brute qu'on en perd l'amour et la compassion les uns des autres. On veut faire de l'évangélisation, mais on n'aime pas ceux à qui on évangélise. On veut parler de Jésus, je dirais même, on ne se rend même plus compte de qui on parle. On parle d'une religion. Revenons aux sources. Revenons à l'origine de ce que l'on fait, donnant du sens à notre vie. Donnant du sens à notre relation avec Jésus. Souvent, Jésus a été remplacé par un principe de philosophie, un mode de pensée. Seigneur, donne-moi cette compassion, car la compassion nous fait accomplir des choses qui sont folles. Car les disciples, je pense, ont pris une grande leçon. Car là où l'amour nous conduit, la puissance de Dieu sera toujours là pour accomplir le miracle. Amen. Là où l'amour me conduit, pas la souffrance, hein, je vous parle de l'amour de Dieu. La puissance de Dieu y sera. Je lisais ce témoignage il y a quelque temps d'un homme qui était parti dans une école biblique et qui, d'un seul coup, il chantait avec la chorale et d'un seul coup, il voit un arabe qui l'écoute. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur. En plus, c'était quelqu'un, c'était un ancien punk. Voilà, punk dans sa racine ADN. Et Dieu a fait une œuvre vraiment merveilleuse en lui. Et il a repris l'amour en Jésus-Christ. Et d'un seul coup, il voyait cet arabe et il chantait et il a été rempli d'amour pour lui, qu'il ne connaissait pas. Il est sorti du groupe et il est parti prier pour lui. Il a dit, je ne te connais pas, mais j'ai envie de prier pour toi. Il a commencé à prier pour lui. Et là, cet homme a fondu en larmes. Il a fondu en larmes. Et cet homme a été instantanément guéri. Instantanément guéri. L'amour accomplit des choses merveilleuses. C'est de cela dont nous avons besoin. C'est de cela dont nous avons besoin, de l'amour. L'activisme, la fatigue peut nous faire perdre de vue l'enjeu spirituel de l'amour pour notre prochain. Être ému de compassion nous permettra de voir de belles choses s'accomplir et d'une certaine manière les nourrir spirituellement, comme Jésus le fera, bien au-delà de la sagesse humaine et du raisonnablement humain. La compassion contribue à la manifestation de la puissance de Dieu et au miracle. Marc chapitre 1, verset 40, je vais vous le lire. À l'épreuve vint à lui, à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur, Jésus. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Il y aurait 20 ans en arrière, 15 ans, j'aurais dit que c'est par la foi que Jésus a guéri ce lépreux. Moi, je dis que c'est par l'amour. L'amour a été ce canal de puissance pour lequel ce lépreux a été guéri. Jésus n'a pas eu une foi aseptisée, une foi de « on lance des défis et on y va ». Il y avait de l'amour. Lorsque cet homme vient lépreux rejeté, qu'il vient demander au Dieu créateur d'être guéri, Jésus, homme incarné, le nouvel Adam, a été rempli d'amour, afin que nous puissions l'être vis-à-vis de nos contemporains. Tant de fois, je disais au premier culte, qu'on est venu, mon moment, prie pour moi, j'ai prié. Je crois que la compassion est bien plus que prier pour un frère ou pour une sœur ou de lui dire, je vais prier pour toi. Souvent, on me dit, je prie pour toi. Moi, quand on me dit ça, je m'inquiète. Et des fois, je n'ai pas compris pourquoi. Je vous convainc. D'ailleurs, répondez-moi. Vous préférez que je prie pour vous que je vous aime? Ah, il y a des spirituels au milieu. Il y a des spirituels au milieu. Les deux. Une des vertus de l'Ancien Testament, c'est de nous aimer comme nous-mêmes. Avec Jésus, on y a l'air plus haute. Nous ne sommes pas appelés à nous aimer comme nous-mêmes. Ça, c'était la loi. Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Moi, je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même parce que je suis égoïste. Je suis un pécheur. J'ai un cœur dur. Je suis plein de névrose. Lorsque je recherche l'amour, je recherche mon amour à moi, de ma personne. Je suis capable de donner à l'homme ce que j'ai reçu dans mon enfance. Lorsque Jésus me dit « Je vais te donner la capacité d'aimer comme moi je t'ai aimé », mon référentiel, c'est plus moi-même. Mon référentiel, c'est toi. Nous avons souvent enseigné les églises à les aimer comme chacun s'aime eux-mêmes. Je préfère être celui qui vous annonce d'aimer votre prochain comme Jésus vous a aimé. Il ne faut pas perdre cela dans l'église. L'église, c'est le lieu de l'amour. L'amour de Dieu. Un lieu de compassion. Donner. Qu'est-ce que tu as ce matin à donner? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Il y a tellement de choses à accomplir dans cette grande église. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas limités par les moyens. Franchement, non. Vous êtes limités par les moyens humains? Est-ce que vous êtes limités à Nantes par les moyens humains? Alors, racontez-moi. Vous avez peur, hein? Vous l'êtes? Je ne sais pas, apparemment, il y a des doutes, là. Vous n'êtes pas limité par les moyens humains. J'ai un rêve. Si chacun d'entre vous, actuellement, se disait « Seigneur, je veux que ça change dans mon cœur, j'aimerais vivre un temps de fraîcheur. J'aimerais aimer comme toi tu as aimé. » Parce que là, j'ai parlé de la théorie. Il y a un chemin pour accéder à cela. Peut-être une prochaine fois, on aura l'occasion de faire le troisième volet dans un an. Parce que le premier volet, c'était l'année dernière. Et que vous qu'on se mette en Jésus. Parce que l'Église, elle n'a pas besoin de gens qui croient. Il y a beaucoup de gens qui ont cru. Elle a besoin de gens qui sont en Jésus. En Jésus. Qui vont puiser en lui le don précieux qu'il donne. Si nous nous réunissons avec Jésus dans nos cœurs, l'Église, elle change. L'Église, elle change. Vous avez tous reçu quelque chose à donner. Ne serait-ce que de l'amour pour vos contemporains. Je veux aimer, Seigneur, comme toi, tu as aimé, comme tu t'es donné. Comme tu as servi tes disciples, comme tu es venu t'humilier. Tu as mis un comble à ton amour, mon Dieu, pour servir. Tu as donné ton sang pour cette église. Et tu m'as mis dans cette église. Tu nous as placés dans cette église, mon Seigneur. Et dans ta parole, inspiré au don le plus précieux, la charité. La plus grande des choses, mon Dieu, c'est toi, c'est l'amour. Nous voulons avoir de l'amour les uns pour les autres. Je veux descendre, mon Dieu, de mes aspirations spirituelles de grandeur. Qu'il me glorifie que moi-même. Je veux souffrir, avoir de la compassion pour ce monde. Je ne veux pas apporter, mon Seigneur, une éthique chrétienne, mais je veux parler de toi, des vertus de celui qui m'envoie. Ô Éternel, tu m'as appelé à la réconciliation. Tu m'as appelé, mon Seigneur, pour être une nouvelle créature. Ce cœur de pierre ne peut ressentir l'amour. Donne-moi ce cœur de chair. Agis dans mon cœur. Donne-moi d'aimer les contemporains comme toi tu les as aimés. Réveille le don dans chacun de nos cœurs et de nos vies. Combien ton église est merveilleuse, ton église est précieuse. Merci pour cette église de Nantes, du nombre d'hommes et de femmes nés de nouveau qui la composent. Parce que tu déverses dans chacun des cœurs et chacun des femmes une vision, un service, un appel particulier pour toi, pour te glorifier. Le monde a besoin de toi. Tu y as mis l'église, l'église rayonne. Que l'église, mon Dieu, soit inspirée de tes projets, inspirée de ta grandeur, inspirée de tes projets, mon Seigneur. Baptise, souffle du Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Que chacun de nos inservices, de nos services, soit imprégné, mon Seigneur, de la vision des âmes, de la consécration, du service mutuel. Donne-nous, mon Dieu, de ne pas nous servir nous-mêmes. Ô Éternel, purifie-nous, sanctifie-nous, mets-nous à part. Ô Éternel, si toi tu as su te dépouiller de ta gloire, combien nous pourrions nous dépouiller de nos misères, de notre incrédulité, et te laisser toute la place. Et cette parole, mon Seigneur, toute simple, germe dans nos cœurs, vienne nous bousculer dans nos acquis, dans nos expériences, afin que nous en ayons des nouvelles avec toi. Réveille notre peuple, réveille notre pays, Ton Église, mon Dieu, se lève pour ta gloire. Bénis tes ministères, bénis chacun de tes enfants. Bénis cette Église, bénis Châteaubriant. Nous te bénissons, nous te glorifions. Amen.